4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien bonjour les amis, alors il fait froid dehors, restez avec nous, hein. Surtout nous avons prévu un plan grand froid jusqu'à midi et demi, c'est bientôt mardi gras, alors on va prendre de l'avance sur le calendrier en faisant le tour de France des beignets, dites donc, mais on va surtout parler de la place du gras dans notre alimentation, comme on dit dans Kaamelott la série, le gras c'est la vie. Alors pour m'accompagner, deux ambassadeurs du gras, mais deux bons vivants sont présents. Topaz, tournesol, bouton d'or, il est capable de vous décrire 50 nuances de beurre, les yeux fermés. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Graisse de canard, sainte ou de porc.
C'est de la poésie.
Gras de cochon.
Oh, on y est. Avec ses températures glaciales, il se met à vanter les mérites du vin chaud. Et là, pas obligé de sortir les grands crus, c'est Olivier Pouls.
Bonjour les amis, c'est vrai que le gras, ça m'inspire aussi. J'ai plein de trucs à vous raconter.
Bah oui, c'est très inspirant et c'est très bon pour la santé, surtout c'est ce qu'on va vous dire. Et sur les coups de midi, Sophie Davant sera des nôtres. Bonne vivante, elle cuisine entre deux affaires conclues, vous entendrez. Allez, allons-y gaiement. Alors avant de prendre le cabas pour notre marché du samedi, question rituelle, chers amis. Quel est votre goût de la semaine? Je commence par vous, Yves Candebord, avec la mine réjouie.
Oui, parce que je suis allé rendre visite à un ami vigneron, Jean-Christophe Comor, à côté de Toulon. On a fait un superbe repas de chasse tous les deux. Et il avait amené un gâteau, un énorme gâteau. J'ai dit, Jean-Christophe, on ne mangera jamais ça. Il m'a dit, tu vas goûter. C'était un gâteau où il y avait un coq en sucre glace dessus.
Ouais.
Ça s'appelle le Chantecler. C'est un gâteau à base de meringue et de crème glacée au café. C'est d'une légèreté, c'est d'une subtilité. J'ai mangé une part qui me paraissait impossible à manger après le repas qu'on avait fait. Et j'en ai même redemandé.
Et c'est passé et alors, tout seul.
C'est un gâteau traditionnel de Toulon. Ça a été inventé à Toulon dans les années 30 par un pâtissier. Et d'ailleurs, il y a toujours une pâtisserie à Toulon, le Chantecler, qui le fait. Et je vous promets, Laurent, café, meringue et des pralins croustillants. C'était une petite merveille.
Un côté merveilleux, un côté opéra réuni peut-être un peu. Hein. Le Chantecler, eh ben on ira goûter quand on sera du côté de Toulon. Olivier Pouls, votre goût de la semaine,
camarade. Ben moi, il est salé et c'est une tourte. J'adore les tourtes et surtout en cette saison. Alors j'ai mangé la tourte de canard d'Amandine Chaignot, vous savez, la chef parisienne de chez Pouliche. Oui. Une tourte en click and collect, hein, évidemment. À un prix tout à fait raisonnable, elle vaut 35 euros. On mange à deux ou à trois, ce qui me concerne plutôt à deux, parce que là aussi j'ai pris une bonne part et j'ai tout terminé. La tourte est parfaitement exécutée, elle est moelleuse à l'intérieur, il y a un petit peu de foie gras. Et surtout, la pâte est vraiment très bonne, une magnifique tourte.
Ah bah c'est bien, la tourte d'Amandine
avec
chez
Pouliche. Juste une
chez
petite
Pouliche.
Salade pour l'accompagner.
Eh bien, on prend. Eh bien, mon goût de la semaine, il date d'hier soir, figurez-vous. Je suis passé devant chez mon poissonnier et là, il y avait deux beaux rougets pêchés en Atlantique, parce qu'on pêche aussi du rouget en Atlantique, mais des beaux rougets qui ressemblaient à des barres en taille. Je les ai fait au four, 20 minutes. 190 degrés, le filet d'huile d'olive, tout simplement avec des petites pommes de terre vapeur. Je me suis éclaté parce que la chair du rouget, avec son goût iodé et puissant, c'est un délice.
Vous les avez vidés ou pas vidés?
Oui, ils étaient vidés, mais j'aurais pu les faire entiers.
Parce que à Saint-Tropez, quand je travaillais dans les années 80, on appelait ça la bécasse de mer, parce
exactement,
qu'on ne les vidait pas.
Absolument, mais dans ce cas-là, il faut mettre le four un peu plus chaud, je pense.
Oui, il faut les saisir un peu plus.
Il faut les saisir, oui.
Et c'est un des rares poissons qui s'accommode très bien avec du vin rouge, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai devancé votre accord. Allez, direction le marché. C'est pas toujours facile au marché, je sais pas si vous avez remarqué, de retrouver les producteurs du coin qui sont cachés parfois parmi les revendeurs et les grossistes. Alors à Tours, sur le marché des Halles, vous avez vos producteurs locaux fétiches. Comment les repérer? Vos réponses au micro de Julien Amat.
Alors on a acheté des champignons blonds de Touraine. C'est tout cultivé dans la région, par la dame qui est juste derrière. Que j'appelle depuis des années Madame Champignon, parce qu'elle a les meilleurs champignons, je trouve, de tout tour. Donc c'est le stand, et vous le voyez avec la queue, le stand où il faut venir.
Quand on commence à connaître un petit peu, on voit que certains marchands, ils sont plus d'ici.
Je vais prendre une betterave, parce qu'elle a de très bonnes betteraves, donc avec les bons produits de Lulu.
En fait, elle a plein de légumes anciens, donc vous avez des blettes de toutes les couleurs, plein de courges différentes, enfin c'est toujours un stand qui est super beau.
Elle vient de Courcouët. Courcouët, c'est à côté de
Richelieu.
C'est un genou, tout ça, il y a beaucoup de producteurs ici.
Ceux qui font un seul ou quelques produits, c'est extra. La marchande de champignons qui fait que des champignons, la marchande de pommes qui fait que des pommes. Voilà, c'est des valeurs sûres, c'est des choses du coin et personne ne peut se tromper.
Bah, c'est bien sympa.
Ah, quel bonheur de vous entendre sur les marchés. Madame Champignon qu'on embrasse, c'est ça qu'on recherche. Effectivement, ce sont des producteurs avec des spécialités, Yves aussi. Hein.
Oui, c'est des producteurs qui ont des spécialités. C'est vrai que dans les marchés, moi j'ai un petit truc pour les reconnaître. je regarde les mains. Quand je vois des belles mains qui sont prêtes à aller au bal, je me dis, ça c'est peut-être pas très bon.
Ça, c'est
mais
vrai.
Par contre, quand je vois la belle main de l'ouvrier agricole, une main qui est un peu lisse, qui est belle, certes qui a des aspérités, qui est un peu marquée, je me dis, celui-là, il aimait les mains dans la terre.
Une main qui a travaillé.
Oui, alors moi, je me méfie des étals qui sont trop garnis. Vous voyez, quand il y a de tout, et surtout des produits hors saison. En général, les vrais producteurs, ils n'ont pas grand-chose à vendre. Ils ont uniquement leurs produits. Un petit producteur de volaille, il va avoir 10-12 poulets, puis c'est terminé. Il n'y en a plus. Un producteur de légumes, il va en avoir 4 ou 5 de saison et de son champ. Et ça, c'est un bon indicateur.
Regardez les cajots et les cagettes aussi.
Oui.
Les revendeurs ont surtout des cagettes avec des étiquetages qui viennent d'Espagne ou d'ailleurs, ou d'autres pays, ou même du Made in France. Hein. Mais le producteur local, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a des bacs en plastique dans lesquels il met sa production en général. Donc soyez attentifs effectivement sur les marchés parce que c'est tellement important de prendre le temps d'acheter de belles choses. Alors à propos, tiens, on en trouve sur les marchés. Est-ce que vous aimez les fromages blancs?
J'adore.
Ah oui.
Bah ça tombe bien parce que fromage blanc, faisselle, petit suisse, ils nous permettent de faire des gâteaux faciles à préparer pour le week-end par exemple. On en parle juste après ça.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Blanc comme neige, onctueux, soyeux, le fromage blanc est l'ami du petit déjeuner pour beaucoup. Le fromage caillé au lait frais, lui aussi, a beaucoup d'adeptes. Alors nous allons entendre qu'ils font d'excellents gâteaux, ces deux-là. Mmh. Et quand on pense au fromage frais ou au fromage même caillé mais frais, on pense tout de suite au cheesecake, Olivier.
Hein. Ah bah évidemment, un des emblèmes de la cuisine américaine aujourd'hui. Mais attention, ça ne vient pas de là. Ce ne sont pas les Américains qui l'ont inventé, comme beaucoup de choses d'ailleurs pour la cuisine américaine. C'est venu avec l'immigration et avec des migrants des pays de l'Est, notamment des Allemands ou des Polonais, qui ont apporté cette spécialité qui vient à l'origine de chez eux.
Et oui, qu'on trouve encore aujourd'hui facilement dans les pâtisseries
bien
juives,
sûr.
Par exemple, où il y a beaucoup, effectivement, de gâteaux fromage blanc ou de cheesecake. Alors, il y a plusieurs façons de faire des cheesecakes, hein, au four, sans cuisson. Mais là, on vous emmène découvrir une cousine du cheesecake. C'est une spécialité alsacienne, c'est la tarte au fromage blanc. Vous connaissez, Yves ?
Oui, je la connais et je l'adore.
Alors, on en fait en Belgique aussi, et c'est un de mes goûts d'enfance.
Ah bah, ça tombe bien, parce qu'on en trouve dans les boulangeries pâtisseries de la région Alsace, vous pensez bien. Je suis allé à Niedermorschwihr chez Christine Ferber. Alors on la connaît pour ses confitures vendues dans le monde entier, mais je peux vous dire qu'elle maîtrise très bien la tarte au fromage blanc, la Käsekuche comme on dit. Je lui ai demandé ses secrets de fabrication. Alors une fois la pâte cuite à blanc, c'est-à-dire sans garniture, ouais, elle doit être généreusement garnie et bien cuite. Écoutez la douce voix de Christine Ferber qui vous raconte la suite.
On prépare l'appareil à fromage blanc. C'est un appareil qui est confectionné avec un fromage blanc à 40% de matière grasse, très peu de farine, un petit beurre noisette, des jaunes d'œufs et du blanc d'œuf battu. Le temps de cuisson dépend toujours de la hauteur de l'appareil dans le fond de tarte. Si vous avez un fond de tarte qui fait au moins 4 cm de hauteur, je préfère cuire la tarte au fromage blanc dans un four à 150-160 degrés pendant près d'une heure et demie. Ce qu'il faut surtout, c'est d'observer la tarte au fromage blanc bien bombée. Elle ne doit plus être trop tremblotante.
Eh bien voilà, c'était les astuces de Christine Ferber. On ferme les yeux, c'était de la poésie.
Ah,
hein.
Une petite astuce aussi, c'est que dans la pâte, vous incorporez des spéculoos.
Ah,
et
pas mal.
Le mélange spéculoos.
Pas s'empêcher. Hein.
C'est la fromage blanc, c'est absolument incroyable. Non,
puis c'est vrai que le gâteau au fromage blanc, c'est sans doute le premier gâteau qu'on fait avec les enfants, parce que c'est un gâteau qui est relativement facile à faire. Et surtout qui est très ludique.
Mais la sienne est délicieuse, hein, je l'ai goûté, très peu de sucre
par
en
contre,
fait.
Par contre, vous ne l'avez pas ramené.
Non, mais non, parce que j'ai tout mangé sur place.
Vous êtes vraiment pas sympa.
Non, c'est pas sympa. Hein. Mais voilà, on salue tous les pâtissiers, boulangers, pâtissiers alsaciens qui font de belles tartes au fromage blanc. Et en Bresse aussi, il y a une autre version de la tarte au fromage blanc.
La tarte au kémo, dit-on là-bas, puisque kémo signifie fromage blanc en patois local. C'est une recette assez proche dans laquelle on incorpore, hein, on va parler du gras tout à l'heure, un petit peu de crème fraîche pour la rendre un peu plus consistante.
Ah bah c'est pour ça. Alors c'est vrai qu'on aime les fromages blancs et les fromages frais dans les gâteaux pour leur douceur, mais aussi pour leur texture en fait, Yves.
Et oui, et puis les textures, moi qui par rapport à ça, qui m'a toujours émerveillé, c'est l'huile de beauté avec le fiadone, ce fromage corse, cette tarte qu'ils font qui amène beaucoup d'onctuosité et beaucoup de mousseux.
Avec le brooch.
Avec le brooch. Et moi j'ai un fromage blanc que j'aime, c'est dans la région d'Angoulême, c'est le Manlois. C'est un fromage blanc de vache assez puissant. Et ils font avec le fromage charentais. Et c'est vraiment une texture qui est très agréable, parce qu'une fois plus, c'est très mousseux, mais ça garde une belle mâche et surtout des arômes très florales.
Alors pas très loin, dans les Deux-Sèvres justement, il y a le tourteau fromager hein, qui est vraiment une fierté locale, qui est fait avec du fromage frais. Alors c'est soit chèvre, soit vache là, et vous le connaissez ce tourteau fromager, il a une coque noire brûlée, mais c'est étonnant qu'il ne communique pas le goût
du
brûlé.
Elle ne communique pas le goût du brûlé, mais surtout elle permet d'avoir texture, parce qu'en fin de compte cette croûte, ça souffle, et c'est simplement quand elle brûle, quand elle noircit, ça permet de la figer, parce que sinon ce serait comme une tarte, comme soufflée, ça retomberait. Alors ça donne la texture, le goût et en plus un visuel, visuel qui est très étonnant.
C'est vrai que c'est impressionnant. Hein,
c'est impressionnant.
On a envie de l'acheter tout de suite.
Oui, ça donne envie parce qu'il y a une curiosité. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bon, ça va sentir trop brûlé. Alors que non, il y a un très très bel équilibre justement entre le fromage et cette petite croûte qui a ce petit côté très légèrement brûlé.
Et est-ce que vous savez que le tourteau fromager, c'était le nom de code qu'on utilisait sur Radio Londres, ici Londres, mais le tourteau fromager débarquera demain. Et c'était pour passer des messages à la résistance des Deux-Sèvres.
Ah, et nous, pour le Berne, je crois que c'était Garbure-Bernais.
Et dans les Vosges, c'est passe-moi le lard. Passe-moi le lard. Alors c'est vrai qu'on y prend goût à cette croûte brûlée. Vous avez peut-être remarqué, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux, il y a le cheesecake brûlé sur le dessus qui fait un carton. Il y a même le New York Times qui estime que ce serait la saveur de l'année 2021. Mais c'est vrai que moi j'aime bien cette saveur un petit peu cramée comme ça.
Oui, mais une fois de plus, les Américains, ils n'inventent rien. Ils sont en train de nous copier tradition française.
Alors, est-ce qu'ils vont copier notre tradition de l'amour du gras? On en parlera tout à l'heure. Et vous le savez aussi, chaque semaine, on s'intéresse à l'actualité de nos assiettes. Les restaurants sont malheureusement toujours fermés. Alors, entre ceux qui respectent et s'adaptent et ceux qui veulent ouvrir à tout prix, eh bien, on en débat à table dans un instant. Ne bougez pas, ça va être passionnant.
On passe à table sur Europe 1.
Le cuisinier secoue les nouilles. Je répète, le cuisinier secoue les nouilles.
Laurent Mariotte.
Ici Radio Londres. Alors, vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire, on suit la situation des restaurants et, pour vous dire les choses franchement, il nous manque, comme à vous, chers auditeurs. Tiens, au passage, un petit sondage. 86% des Français disent que c'est la fréquentation des restaurants qui leur manque le plus durant cette pandémie, avant même de pouvoir rencontrer les amis et la famille.
Et je suis bien d'accord avec eux, parce que je peux vous assurer, moi, ça me manque de cuisiner pour mes clients.
Alors, c'est historique. Ça fait maintenant 3 mois et demi qu'ils sont fermés. Alors, bien sûr, ils s'adaptent avec la vente emportée. Mais l'absence de perspective, faut le dire, sape le moral de la profession, Yves. Il y a deux camps. Il y a ceux qui respectent les règles et apprécient l'aide de l'État. Et puis, il y a ceux qui veulent ouvrir à tout prix, quitte à être dans l'illégalité. Alors, je voudrais qu'on parle de ceux-là d'abord, qu'on va appeler les rebelles. Et il y a deux types de rebelles même, parce qu'il y a des restaurateurs qui ont voulu rouvrir par esprit d'humanité, souvent sur un coup de tête, faut bien dire les choses.
Oui, sur un coup de tête, mais j'ai envie de vous dire, Laurent, c'est un coup de tête malheureux. Je peux comprendre que psychologiquement, on est tous à bout, parce qu'on a envie de retrouver nos clients, on a envie de retrouver une activité, ça nous manque. Mais il y a une réglementation, et je ne suis pas sûr que le de vouloir impérativement ouvrir en étant illégal va faire avancer notre cause et que ça ne va pas retarder l'ouverture.
Oui, je pense à ce restaurateur de Limoges qui vendait à emporter, puis qui avait vu des ouvriers frigorifiés devant chez lui, qui a voulu ouvrir le restaurant pour leur faire à manger. Et là, on lui est tombé dessus. Quoi.
Voilà. Oui, alors là, par contre, on ne lui tombe pas dessus. On fait un cas à part, on dit, voilà, monsieur, vous avez bien fait, c'est un geste d'humanité.
Mais maintenant, il y a une législation spéciale dans les régions qui a un accord tripartite entre le préfet, les entreprises et le restaurant pour que justement les gens qui travaillent dehors dans le froid puissent aller manger au chaud, comme c'est le cas pour les routiers qui ont une dérogation aussi avec les restaurants routiers.
Ouais, puis j'ai envie d'en dire, Laurent, surtout enfin, parce qu'il y avait quand même une inégalité totale, je vais le dire, Rungis. Parce que Rungis, les restaurants sont restés ouverts pour leurs ouvriers. Et je dis, c'est quand même honteux. Parce que, certes, je peux le comprendre, mais à ce moment-là, pourquoi on ne l'a pas fait avant pour l'ensemble du territoire? Voilà, je trouve que c'est une bonne initiative. Entreprise, restaurateur, préfecture, trouver un accord pour nourrir ces gens qui travaillent.
Oui, parce que ça met effectivement de l'eau au moulin de ceux qu'on appelle les clandés, les restaurants clandestins, et puis qui se disent, tiens, pourquoi pas, moi finalement, je vais ouvrir et me mettre dans l'illégalité. Alors là, il faut qu'on en parle de ces restaurants clandestins. Olivier, qui sont ces clandés déjà? C'est quoi les restaurants clandestins?
Comme le nom l'indique, ce sont ceux qui reçoivent en loose day, alors souvent une clientèle d'habitués, d'amis, voire de réseaux, de relations, et on rentre par l'arrière, les rideaux sont tirés et ils font à manger dans l'illégalité. Il faut savoir que maintenant, ils risquent gros parce que les contrôles se sont multipliés. Un certain nombre d'entre eux le savent, ils se sont fait attraper et aujourd'hui, ça coûte très cher. C'est très difficile d'avoir une position. Bien sûr qu'il n'y a pas à rentrer en résistance aujourd'hui contre le virus. Ce n'est pas de l'idéologie. On n'est pas en 40. On ne rentre pas en résistance contre le virus, il faut appliquer tous les gestes barrières pour en sortir le plus rapidement possible. Ouais. Après, moi j'ai rencontré beaucoup de restaurateurs, c'est du cas par cas, des restaurateurs qui sont en souffrance psychologique, financière peut-être pour certains, mais même de ne pas pouvoir exercer leur métier, ça les démange. Et bien sûr que quand ils reçoivent le coup de téléphone de quelques clients qui disent « on t'ouvrirait pas demain midi,
Olivier, on va... » Alors on va en parler, c'est intéressant parce que c'est pour faire la transition, pour sortir de ce monde-là, il va falloir peut-être passer par une transition comme ça. Mais moi ce que je voudrais dire, les aides, ils reçoivent des aides, c'est clandestin.
Voilà, moi je dis, le truc c'est que la table de copains, je dis pas que je l'ai pas fait non plus, la table de copains, je craque, j'ai envie, ça me fait plaisir de communiquer, je l'accepte, mais c'est pas du business. Quand on me dit qu'il y a plein de restaurants qui sont ouverts, qui carrément font des salles combles, mais j'ai envie de leur dire, à ce moment-là, soyez couillus, dites on refuse les aides, et on continue dans l'illégalité. Tandis que là ils veulent le beurre,
l'argent du beurre
et la crémière, et des fois même ils veulent sauter la crémière, mais pas exagérer quoi.
mais carrément, non mais c'est vrai qu'il faut bien dire les choses. Alors, il y a des contrôles qui ont été renforcés ces dernières semaines. Alors, moi, il y a un contrôle que j'adore, à côté du palais de justice, quand même, où la police est arrivée dans un restaurant et plein de magistrats qui étaient là. Et moi, ce qui me rend dingue dans cette affaire, c'est que les magistrats ont pris de haut les policiers en disant « Mais pourquoi êtes-vous là ? Qu'est-ce que vous permettez ?»
Le scandale du pouvoir.
Mais c'est scandaleux,
le scandale du pouvoir. Voilà, c'est complètement honteux. Parce que c'est des gens, je peux vous assurer, quand vous passez devant eux au tribunal, ils vous mettent plus bas que terre des fois, ils vous prennent pour des gosses, pour des histoires, pour des peu importe pourquoi, et que là, eux, ils se croient au-dessus de toutes les lois. Mais comment voulez-vous aujourd'hui qu'on s'en sorte si chacun interprète à sa façon ? Et il faut le dire, Laurent, l'État français, financièrement parlant, a fait des aides exceptionnelles à tous ces artisans que nous sommes.
Mais on va dire la vérité.
Il faut le dire. Faut
pourquoi
dire la vérité.
L'Espagne et l'Italie rouvrent les restaurants ?
Parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire ce que l'État français fait.
Exactement. Alors, il faut peut-être parler de la transition. Vous l'évoquiez, Olivier, il y a trois secondes, effectivement. La transition, elle peut être un petit peu c'est souple. C'est-à-dire que plutôt que de rouvrir d'un coup, il faut peut-être permettre d'ouvrir des petites capacités aux restaurants.
Il n'y a pas de on-off, c'est-à-dire qu'il va falloir évidemment s'adapter et y aller tranquillement. Ce n'est pas la peine de dès demain dire allez, on reprend comme si de rien n'était, il va sans doute falloir adapter, avoir peut-être 10 clients au début, 15, 20, continuer à aider bien évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'à un moment il coûte plus cher au restaurateur d'être ouvert que d'être fermé, donc il va falloir équilibrer tout ça. Bon, et puis les situations sont très différentes en fonction des régions aussi, on le voit très bien, le virus dans certains coins de France ne circule pratiquement pas, où il y a des taux très très bas de contamination, et évidemment qu'on pourrait peut-être se dire que dans ces endroits-là, on pourrait commencer à desserrer un tout petit peu les taux.
Ça va être délicat, parce que tout le monde va se ruer. Moi, si je sais qu'il y a des restaurants qui sont ouverts à 50 km de chez moi, je vais prendre la voiture pour y aller.
Vous en êtes à ce point-là ?
Non, mais bien sûr, je suis en manque. On est en manque. Après, moi, je pense que justement, il faut trouver cette période alternative pour nous redonner, parce qu'on est en train de craquer.
Petite capacité.
Psychologiquement, on craque tous.
Et puis les cuisiniers ont besoin de retrouver leurs équipes et de garder la maîtrise du geste.
Et puis Laurent,
aussi.
Je vais vous prendre une parallèle. Un sportif de haut niveau qui ne joue pas au football pendant 6 mois. Vous croyez qu'il peut jouer la finale de la Ligue des Champions ? Non, il ne peut pas. Et nous, on est pareil. Pour se remettre dans le bain, pour retrouver le rythme, pour retrouver la foi, pour retrouver la créativité, il nous faudra un petit peu de temps. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir ce sas de décompression pour qu'on retrouve la vie, réglementé, mais comme dit Olivier, très important, et qu'on continue à nous accompagner pour les aides. C'est juste psychologique, parce qu'il y en a qui ont fait des bêtises, on le sait.
Petite capacité.
Il faut pas qu'il y ait plus de gens qui fassent de bêtises.
Et très peu de personnel et on rouvre pour peu de couverts. Voilà, allez, patientons encore un peu. Attendons avec impatience la réouverture des restaurants. En attendant, on va cuisiner à la maison. Et on revient dans un instant, justement, pour déclarer notre amour du gras. C'est la vie, le gras.
Ah, c'est plus que la vie, le gras. Bon, gras, c'est gras. Il n'y a plus d'espoir. Bon, il y a d'espoir.
Il y a plein d'espoir avec le gras. Ça ne vous a pas échappé, demain nous serons le 14 février, le jour des amoureux. Eh bien figurez-vous qu'Yves Condebord, d'ici présent, va nous parler de la cuisine amoureuse dans un instant. Mais juste avant, on reste dans l'ambiance avec Nat King Cole, Love sur Europe 1. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love
was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
C'était Nat King Cole sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants.
Je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux. Le gras, c'est la vie.
Laurent Mariotte.
Ben oui, c'est ce qu'on va vous dire encore quelques minutes, vous allez entendre. Mardi prochain, c'est Mardi Gras, l'occasion de manger des beignets, bien entendu. Mais là, je vous vois venir tous, chers auditeurs, avec des beaux souvenirs de beignets de carnaval de votre enfance. C'est vrai qu'on a tous des souvenirs, on va en parler justement. Mais tiens, Yves Candebord, Olivier Pouls, pourquoi mange-t-on des beignets à Mardi Gras? Vous savez?
Oui, c'est une tradition, me semble-t-il, charcutière. Après avoir fait jeûne pendant toute la période de carême, eh bien, on rompt le carême. Et les charcutiers avaient des stocks de gras qu'ils n'avaient pas vendus pendant toute cette période et qu'ils utilisaient pour confectionner des beignets.
Je confirme en tant que fils de charcutier. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps pour la chandeleur des fameuses crêpes de papa. Eh bien, une fois de plus, à ce moment-là, il sortait dehors la friteuse et il faisait ces fameux beignets de Mardi Gras.
C'est le contraire, Olivier, vous dites que c'est après carême, mais non, le carnaval c'était la dernière occasion d'écouler les stocks d'œufs et de gras avant le carême.
Ah oui, c'est justement juste avant.
Parce qu'il y a le mercredi des cendres qui annonce le carême après Mardi Gras dès le lendemain, et là on rentre dans une période on va dire presque de jeûne, où on oublie le gras, donc on s'éclatait avant, on éclusait les stocks de gras, si je puis dire. Et à propos, tiens, c'est quoi vos stocks de gras chez vous, à la maison, Yves?
Alors moi je vais vous surprendre, parce que je pense que vous vous attendez graisse de canard, graisse de foie gras, et non mais... Laurent. Non, c'est du végétal. C'est beaucoup d'huile végétale aromatisée, des huiles d'avocat, des huiles de courge, l'huile de sésame, l'huile de noix, l'huile de noisette. J'adore ces condiments parce que ça me permet d'assaisonner la cuisine, de donner une âme sans justement avoir la lourdeur du gras, juste avoir la subtilité du gras.
Première pression à froid pour qu'elles emprisonnent bien tous les nutriments, dont les oméga 3, voilà, effectivement. Ouais. Et vous, alors Olivier, alors laissez-moi deviner, je vous regarde, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Alors je connais votre frigo, mais il y a des plaquettes de beurre, ça c'est sûr.
Il y a du beurre parce que j'adore ça. Voilà. Et puis, bah, une fois encore, on ne renie pas ses origines. Dans la friteuse, j'ai du blanc de bœuf, du gras de bœuf.
Oh là là.
Parce que pour faire des frites, on n'a encore rien inventé de mieux. C'est incomparable. On peut faire ce qu'on veut. J'aime bien les frites à la graisse de canard, j'aime bien les frites à l'huile, mais les frites au gras de bœuf.
Et puis ça embaume les vêtements, c'est ça qu'il faut dire.
Il va pleurer. Il a les yeux qui sont en train de se...
Quel gras on utilise pour faire des beignets de carnaval, Yves?
Alors, pour faire les beignets de carnaval, on utilisait de l'huile arachide, voilà, qui est une huile qui ne marque pas, et surtout qu'une huile qu'on peut monter à température assez élevée, parce que quand on fait des beignets de carnaval, c'est des beignets voilà, qui sont frits dans de l'huile, et la cuisson est très importante, parce que si on fait une cuisson trop basse, ça va trop s'imprégner.
Et oui.
De gras, tandis que si on fait une cuisson au-dessus de 170 degrés, ça permet d'avoir un beignet qui va rester quand même gras, il ne faut pas se voiler la face.
Oui, mais qui va être saisi.
Mais
quoi.
Qui va être saisi et qui va avoir la subtilité entre le croustillant et le moelleux.
Alors, il y a plus de 25 variétés de beignets hein, à travers toute la France. Vous en avez quelques-uns, tiens, sous la main, sous la dent?
Les bugnes, par exemple.
À Lyon.
À
oui.
Lyon, évidemment, grand classique.
Les beignets de carnaval en Lorraine, on appelle
évidemment,
ça.
Évidemment. Et puis dans le sud-est, il y a l'oreillette provençale. Et chez nous, ma grand-mère, à l'hôtel du commerce à Navarinx, nous faisait des merveilles pour Mardi Gras. qui sont différents, que ce n'est pas tout à fait les mêmes beignets qu'on peut trouver de façon classique. C'est un beignet avec une pâte sablée.
Vous m'avez parlé d'un beignet tout à l'heure en Bretagne, Olivier, avant de
dans
commencer l'émission.
Dans les Côtes d'Armor, les beignets de Tréguier, originaire de la ville du même nom. Et ça, sont des beignets qui sont fourrés par une petite tranche de pomme ou de pomme râpée. Alors, on les cuit d'abord à la poêle. Et ensuite, on les termine sous le grill. Ils ne sont pas immergés dans le gras.
Et en Touraine, il y a un beignet qui est magnifique que je viens de faire cette semaine pour mes émissions de télévision, pour tout vous dire. Mais là, je me tourne vers vous parce que vous êtes le champion de ce beignet, Yves. C'est le Pédenone.
Ouais, hein, j'ai été champion du monde.
Mais il est champion,
j'ai été champion du monde.
Mais
oui,
vraiment
oui. Et oui, tout à fait. C'est vrai. C'est à Chartres. C'est les éditions Menu Frottin qui font un festival de cuisine à Chartres et qui ont créé ce championnat du monde du Pédenone auquel j'ai participé maintenant. Ça fait 3 ans. Et je l'ai gagné. Et je l'ai gagné avec un Pédenone très particulier parce que j'avais fait un Pédenone au foin et à la fleur d'oranger.
Oh, joli.
Mais c'est très facile. C'est-à-dire que c'est une pâte à choux, en fin de compte. Je fais infuser du foin dans mon lait pour faire la pâte à choux. Et après, je rajoute de la fleur d'oranger. Alors, l'astuce aussi pour bien réussir un beignet de Mardi Gras, Laurent, qui est à base de pâte à choux, desséchez fortement votre pâte à choux quand vous allez la faire. Et après, par rapport aux recettes classiques, rajoutez toujours 10% de jaune d'œuf.
Mais c'est le moment de faire des beignets de carnaval. C'est mardi prochain, le jour de Mardi Gras. Et il faut faire un petit clin d'œil à nos amis charcutiers qui nous écoutent parce que la tradition veut effectivement qu'on vende les beignets au départ chez les charcutiers.
Oui, ouais, c'était les charcutiers, avant même les boulangers, avant les pâtissiers, qui, à la saison du Mardi Gras, faisaient ces fameux beignets puisqu'ils avaient, voilà, ils avaient des friteuses adaptées pour pouvoir les réaliser. Et c'est vrai que c'est beau à voir, Laurent. Quand vous faites un beignet, quand vous le mettez dans l'huile, il se retourne tout seul. Et petit à petit, il y a des grosses alvéoles qui apparaissent hein, et qui vont faire que vous allez avoir un beignet qui va être très gonflé, vide bien sûr au centre et très croustillant.
Et ben voilà, le gras, c'est la vie. On continue d'aimer le gras. Beurre, huile d'olive, huile de colza, graisse de canard, saindoux. Priez pour nous, blanc de bœuf, la galaxie du gras est infinie. On revient juste après ça.
Qu'est-ce qu'il dit André ce soir?
Ce soir, il dit beurre d'escargot et queue de bœuf.
Parfait, pour deux.
Moi, ça va faire trop.
Quoi ? Ça va pas être grossière, en plus. Ici, on prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là ? Plaisir.
Europe 1, Laurent Mariotte.
Ah, c'est magnifique.
Mais c'est tellement vrai.
Eddie Mitchell, dans Le Bonheur et dans Le Pré, c'est avec Sabine Azéma, c'est une scène sublime. Alors, c'est vrai qu'il fait froid et pour célébrer le gras, nous fêtons en avance Mardi Gras. Loin de nous, hein, l'idée de manger de la graisse de phoque comme les Inuits, mais je vous propose de faire un inventaire des bonnes graisses que nous conservons à la maison. On va commencer par le beurre, c'est un petit peu notre graisse de phoque à nous, les Français, enfin, du moins au nord de la Loire, hein. 8 kilos tiens, par habitant et par an, c'est ce qu'on mange en beurre en France.
Ils ne m'ont pas compté dedans.
Non, mais vous explosez le record, vous. Record mondial, hein, devant l'Allemagne. Et le gras, c'est aussi de belles histoires de beurre. Je pense au beurre de madame qu'on a avec nous aujourd'hui, qui est un beurre salé, qui a une belle couleur jaune-orangée, qui a un goût inoubliable. Et ça, on le doit au travail de Thierry Lemarchand, qui est un éleveur breton qui a bien failli mettre la clé sous la porte en 2016. Il a été aidé par la famille Rollinger et il s'est lancé dans la réalisation de ce beurre fermier. Vous avez vu la couleur un petit peu,
oui,
Olivier ?
Magnifique.
Il est sublime. Alors, c'est un lait qui est obtenu avec le lait d'une vache spéciale qui est la Froment du Léon. C'est une race rustique du nord du Finistère. Alors, c'est un lait cru, évidemment. Et moi, comme on dit, j'aime le sentir parce que là, on est dans l'étable.
Ah ben on est dans l'étable. Hein, ouais.
On est dans l'étable, mais ça ne sent pas comme l'étable parce que l'étable, quand même, ça pourrait oui, avoir beaucoup de puissance, oui, oui, et être un peu désagréable. On est vraiment dans la finesse de, voilà, du foin, de la paille séchée et qui amène une onctuosité et surtout qui amène, je dirais, un côté très suave, très doux,
oui,
en bouche.
C'est vrai que oui, on n'est pas au cul de la vache. Comme
on n'est pas
parle,
au cul de la vache. Voilà,
il est jaune intense, hein, le beurre, voilà, de madame. Je vous le dis, c'est Thierry Lemarchand qui fabrique, qui réalise ce beurre avec ce lait de la Froment du Léon. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce lait ? Eh bien, on va lui poser la question. Bonjour Thierry Lemarchand.
Bonjour.
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 Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce lait de Froment du Léon, alors ?
Ah, la Froment du Léon, ben, c'est un lait qui est riche en matières grasses. La froment a un gène qui lui permet de fixer le carotène de l'herbe qu'elle mange, qui lui donne sa couleur. Et la taille des globules gras du lait de Froment du Léon est plus gros, qui lui donne une tartinabilité plus facile. Quoi.
Ah, c'est grâce aux globules gras.
Voilà.
Les globules gras, il y avait les globules blancs que Olivier Pouls connaissait bien, les globules rouges. Mais là, on vient d'apprendre qu'il y a des globules gras, alors.
Ah, bah, le gras, c'est nécessaire à notre organisme. Notre cerveau est l'organe le plus gras de tout notre corps et on a besoin de gras pour renouveler nos cellules.
Yves Candebord parlait de ce goût subtil de votre beurre, Thierry Lemarchand. C'est un goût qui change selon les saisons en plus.
Ah bah clairement, l'herbe influe énormément sur la qualité du beurre. Les acides gras insaturés, on les a au printemps et toute la saison d'herbe. Ça se voit sur la couleur et sur la perténibilité.
Vous êtes rassuré, Olivier ?
Oui, vous savez que les scientifiques se penchent aujourd'hui sur le gras. Et des études tendraient à démontrer que le gras serait peut-être la sixième saveur. Alors pour l'instant, il y a encore un petit débat. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le gras a une faculté incroyable à capter tous les arômes, toutes les saveurs. Prenez du beurre, vous laissez dans le frigo avec une odeur forte, il va s'en imprégner et ensuite à le restituer.
Dans l'alimentation de nos animaux, il faut faire très attention. Si on donne des choux, par exemple, à manger à des vaches, clairement, vous aurez un beurre qui a un goût de choux. Donc, c'est des aliments à proscrire.
Merci et bravo pour ce beau beurre, Thierry Lemarchand. Et merci d'avoir été avec nous. Et bon week-end. Merci,
au revoir.
Thierry Lemarchand.
Bon week-end.
Et
au revoir.
Vive le joli beurre de madame de Thierry Lemarchand. Alors, ça, c'est un beurre de dégustation. Hein. Ça vaut quand même son prix. Là, on est à 8 euros le joli pot de beurre. Mais il y a des beurres de cuisine aussi qu'il ne faut pas oublier, Yves.
Oui, complètement. Mais même ce beurre-là, Laurent, aujourd'hui, on a un travail avec le beurre qui est totalement différent, je dirais, il y a une trentaine, quarantaine d'années. Alors, je vais vous prendre un exemple concret, c'est quand on fait un poisson meunière. À l'époque, on démarrait avec une pointe d'huile d'arachide, on rajoutait le beurre. Quand le beurre était mousseux et on mettait pratiquement en temps pour temps beurre et huile, on mettait notre poisson et on arrosait. Voilà, on arrosait. On imprégnait le poisson vraiment du beurre. C'est que le poisson était gorgé de beurre. Alors certes, c'était très très bon, mais il faut le reconnaître un peu lourd. Aujourd'hui, on a changé la méthode parce que justement, on prend des meilleurs beurres et on en met beaucoup moins. Comment on fait ? Pareil, démarrage avec une huile d'arachide ou huile d'olive. On va rôtir notre poisson et juste à la fin, on va prendre pour un poisson 15 grammes de beurre qu'on va mettre dans la poêle. Dès qu'il va mousser, on va arroser légèrement le poisson. Et là, on va avoir un poisson qui ne sera pas spongieux en beurre, mais qui aura juste le goût du beurre. C'est pour ça que, toujours la même philosophie, mieux vaut acheter mieux et en mettre moins.
Exactement. Voilà. Pareil, en pâtisserie, le beurre joue un rôle. Quand vous faites des financiers avec ce beurre noisette qui va venir donner du caractère à votre petit financier.
C'est le jour et la nuit.
C'est sublime. Alors, on parle du beurre, mais il y a les huiles aussi. D'ailleurs, on a fait un sondage sur le groupe Facebook des Bons Vivants et nos auditeurs sont plus huile d'olive que beurre, par exemple. Il y a plein de typicités dans l'huile d'olive aussi, Olivier.
Ah, et puis des typicités et des goûts. Vous avez les différents fruités qu'on appelle le vert, le mûr ou le noir. Alors, pour faire rapide, le vert, c'est le plus. Sont des olives qui sont récoltées en tout début de saison et c'est le plus végétal des arômes que vous avez trouvé, côté un peu herbe coupée, parfois un petit peu vive d'ailleurs. Bon, le fruité mûr, ce sont des olives récoltées à maturité, donc avec un côté plus rond. Et puis, vous avez le fruité noir, qui est une technique qu'on voit de moins en moins, d'ailleurs, puisque les olives sont récoltées. Ensuite, on les met un peu de côté, on les laisse maturer pendant quelques jours avant de les presser. Ça fait une huile qui est plus crémeuse, qui est plus chère aussi.
Oui, qui est un peu plus chère, oui.
Le fruité noir que parle Olivier, c'est une huile d'exception. Mais c'est une huile, c'est pratiquement une sauce à elle toute seule.
C'est vrai. C'est un condiment.
C'est un condiment. On va la mettre, on va l'utiliser simplement pour juste arroser, peut-être rajouter sur une purée, rajouter juste une cuillère à café sur un poisson, c'est largement suffisant. Oui. Ça va donner de la puissance, c'est assez incroyable. Après, quand on prend par exemple la verte, la verte, comme dit Olivier, c'est végétal, donc c'est un assaisonnement sur des salades, c'est un assaisonnement sur des légumes. Et la dernière, la fruitée mûre, c'est plus un assaisonnement sur des pâtes, sur du féculent. Parce qu'elle est mûre et elle est fruitée à la fois, et c'est un bon équilibre.
Eh bien voilà, découvrez les huiles. On espère vous avoir ouvert les papilles pour vous donner envie de vous mettre au gras ce week-end. Et ne bougez pas, on revient dans un instant avec une bonne vivante. Sophie Davant sera des nôtres. A tout de suite. Il fait froid, alors aujourd'hui on se réchauffe et avant de recevoir Sophie Davant, nous partons dans le sud-ouest où les températures sont un petit peu plus clémentes, ça tombe bien. On écoute le dernier titre de Francis Cabrel et c'est pour Sophie.
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines. Qu'un jour tu reviennes te pendre à mon bras. Dimanche et semaine ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui n'en finissent pas. Ouh, reviennent ces instants trop courts. Le Rhône ou la Seine, Rimbaud, Verlaine, rien ne m'en consolera. Comme des dizaines d'amants maladroits. On gravait les mêmes stupides rengaines, les mêmes soupirs aux mêmes endroits. Où ça mène, Fontaine, dites-moi. Vous qui en avez tant écouté, vous qui ne sauriez pas mentir, est-ce qu'elles savent pardonner ces belles pour qui l'on respire? Les avez-vous s'approcher, pencher sur vos reflets saphir, dire qu'on peut tout recommencer, chercher bien dans vos souvenirs.
Chanson de Francis Cabrel, Le Peuple des Fontaines, pour vous et pour Sophie Davant que nous allons accueillir.
Merci.
Populaire, nature, vivante, vous l'entendez, elle fait partie de la famille pour de nombreux Français. Après ses succès à la télévision, elle se lance dans la presse écrite avec S, un magazine féminin positif et inspirant. Très investie dans sa conception, elle nous montre qu'elle a le goût des autres. C'est Sophie Davant, notre invitée. Bonjour Sophie.
Bonjour, merci pour Francis Cabrel. Et j'adore, on est particulièrement bien accueillis là, avec tout ce qu'on aime.
Il y a le vin du jour d'Olivier Pouls, on vous dira de quoi il s'agit
on va en parler
tout à l'heure. Hein, ce seront vos accords de saison avec le vin du jour. Et puis Yves Condebordes, que je ne vous présente pas, Sophie.
Ah bah non, j'ai le plaisir de le retrouver. Je suis en train de lui dire qu'il fait plus de médias que de cuisine maintenant.
Sophie, c'est la faute à qui?
C'est la faute à moi, c'est vrai que c'est la faute au Covid.
Non, mais il faut savoir que j'ai commencé à la télé, j'étais très jeune et Sophie aussi, on est encore très jeune. Il y a bon nombre d'années, et c'est pratiquement mes premières émissions, c'était avec Sophie.
Mais c'est parce qu'on se nourrit très bien, vous avez vu comment on est conservé quand même.
On se nourrit bien,
on boit bien, et du coup, on résiste.
On vous voit encore tous les deux régulièrement dans des bêtisiers avec de belles asperges.
C'est magnifique cette séquence, bien sûr.
Très très belles asperges. Hein.
Mais à l'époque, il était très concentré, il n'avait pas les idées mal placées comme moi.
Je ne m'étais pas déconcentré.
Est-ce le magazine de Sophie Davant, c'est un bimestriel, c'est une occasion pour vous de tailler la bavette avec des gens que vous aimez, entre autres ce magazine, Sophie. Hein.
Sur la longueur surtout, parce que comme moi, vous savez qu'en télé ou en radio, sont des médias un peu de l'éphémère, on va vite, on est archi minuté, donc là j'ai le temps de creuser, moi j'aime bien creuser, et puis des interviews longues sur 11 pages, enfin, je me régale.
Grande interview de Sylvie Vartan à l'intérieur, je l'ai encore lu hier soir, elle raconte plein de choses sur son enfant. enfance en Bulgarie, sur l'importance de son frère. Elle dit des choses intimes sur Johnny qu'on n'a pas vu ailleurs. Elle parle un petit peu aussi de son enfance difficile en Bulgarie. Enfin, c'est un très très beau magazine et très complet. Il y a plein de choses, notamment sur... le plaisir féminin, sur... ça, c'est le genre de magazine que les hommes peuvent piquer à leurs femmes aussi, un petit peu. Hein.
Je leur recommande d'ailleurs. Je recommande aux hommes de le piquer à leurs femmes parce que comme ça, ils vont mieux les comprendre et donc mieux vivre avec.
Il y a des trucs à apprendre.
Voilà,
toujours, il y a toujours des trucs à apprendre. La table, la cuisine tiennent une place importante dans votre vie, Sophie ?
Oh bah oui, moi, comme Yves, je suis originaire du Sud-Ouest, donc j'ai appris à faire la cuisine dans les jupons de ma grand-mère, paternelle notamment, qui avait une vieille cuisinière en fonte qu'elle alimentait avec des bûches. Et il y avait toujours des restes de sauce qui fristouillaient sur la cuisinière. Donc j'ai appris des tas de choses dans ses jupons, notamment à faire du salmi de palombe, à faire des croquettes avec les restes du pot-au-feu. Je ne sais pas si on faisait ça chez vous.
Ouais, complètement.
Des petites croquettes avec des pommes de terre roulées dans la chapure, conservées avec une salade, c'était délicieux.
Ouais, c'est la cuisine magique des restes.
Ben, la cuisine magique des restes, comme vous dites.
À n'oublier, j'avais un cuisinier, M. Gabriel Biscay, qui disait « Les plus grands cuisiniers, c'est ceux qui savent accommoder les restes. »
Bien sûr.
Quel est votre goût de la semaine, Sophie ?
Eh bien, pas plus tard qu'hier soir, j'ai goûté un pâté en croûte de M. Robuchon. J'ai la chance d'avoir une épicerie fine de Robuchon à côté de chez moi. Et comme je suis arrivée juste avant la fermeture, il ne restait plus que ça. Je me suis régalée. Je l'ai fait un petit peu réchauffer. J'ai fait une petite salade avec. C'était délicieux.
Un bel achat plaisir. Alors demain, à propos de plaisir, c'est la Saint-Valentin. La cuisine est une façon de déclarer sa flamme. Hein. Cuisiner ensemble, c'est sensuel et créatif à la fois. Mais alors Yves, ça m'étonne de vous. Vous avez envie de célébrer la Saint-Valentin, qui est une fête commerciale, il faut le rappeler au départ. Quand
alors
même,
la vérité, c'est que vrai, je suis totalement anti-Saint-Valentin parce que c'est plus une fête du tiroir-caisse qu'autre chose. C'est vrai qu'on voit souvent
votre
des
femme
prix.
Va être contente,
c'est marrant, c'est souvent les mecs qui disent ouais. Ça. Il y a des fêtes comme ça contre lesquelles ils s'inscrivent parce que soi-disant c'est commercial.
Je suis pas d'accord parce que je peux vous assurer que je déclare ma flamme à ma femme tous les jours. Et j'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour le faire. Sophie.
Pareil, voilà. Exactement.
Ça, c'est
voilà.
Mieux.
Et ben voilà, je suis bien d'accord, partagé.
Alors, moi aussi, t'entends, chérie.
Cette année, vous voyez les choses un petit peu différemment, Yves.
C'est vrai. Cette année, vu le contexte où on est tous, et c'est vrai que psychologiquement, oui. On est tous un peu marqués. Et il faut le dire, on en a un peu marre voilà, de vivre ce qu'on vit. Je crois que c'est peut-être le moment voilà, de déclarer sa femme. Ça nous mettra de déclarer sa femme.
Ah, c'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus.
Ah non,
vous n'avez pas déclaré votre femme. On va avoir un contrôle encore.
Non, de déclarer l'amour qu'on a en nous à l'être qu'on aime. Ça nous mettra aux uns et aux autres de la baume au cœur.
Alors qu'est-ce qu'on fait par exemple à deux ? C'est vrai que c'est créatif, la cuisine, c'est sensuel, il y a le toucher, il y a le regard, il y a l'ouïe, il y a tous les cinq sens qui sont en action.
Ce que je suggère, c'est justement pour cette Saint-Valentin, c'est justement de passer ensemble en cuisine. De vivre ce moment qui est assez incroyable parce qu'il y a de la précision, il y a de l'amour dans le geste. L'intelligence de la main, le délicat mouvement que la main peut avoir avec des produits. Je vais vous prendre une recette. On va faire des œufs mollets. Voilà, 9 mollets, 5 minutes de cuisson, rafraîchis, quand ils sont tièdes, vous vous mettez côte à côte avec votre épouse, vous vous mettez à écaler 9 mollets. Mais la douceur qu'il faut, c'est pratiquement, Sophie, c'est pratiquement une caresse d'amour.
Oui, c'est sensuel. Ouais,
c'est sensuel. Il ne faut pas crever l'œuf. Il faut simplement, voilà, je veux dire, l'accompagner pour décoller délicatement et voir apparaître ce petit, voilà, ce petit objet tout blanc, tout rond, qui est magnifique. Vous en faites 3, ce mollet. Un pour chacun. Et le troisième, vous le mettez dans un récipient avec un mixeur plongeur, des feuilles de basilic, un peu de parmesan. Et vous mixez. Et vous demandez à votre épouse de prendre 25 centilitres d'huile, par exemple, de pépins de raisin. Et délicatement, pareil, avec beaucoup de sagesse, vous allez verser tout doucement, cette huile voilà, dans votre préparation. Et vous mixez. Et vous avez une superbe sauce verte. Vous nappez votre œuf. Vous prenez un radis vert. C'est le tout début de la saison.
Oui.
Les green mint avec la microplane.
La râpe.
La
oui.
Râpe, la fameuse râpe. Et c'est pareil, le geste de la main. Les gestes de la main, Sophie, en cuisine... Je sais que vous les appréciez.
Ouais.
On râpe à deux.
C'est parce que c'est une précision et surtout une répétition d'un geste qui est beau à voir. Le travail de la main est toujours beau, que ce soit un artisan cuisinier ou que ce soit même un menuisier. Et vous allez râper ce radis, vous avez des petits vermicelles qui vont tomber dessus, qui vont assaisonner. Et le plus beau, c'est face à face, Laurent.
La dégustation.
La dégustation.
Eh oui.
De prendre une cuillère, de casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune.
Et c'est sensuel,
c'est de l'amour.
Ah bah voilà.
C'est de l'amour.
Ah mais Sophie, j'ose pas imaginer ce qui va se passer après chez vous, Yves. Hein.
Ce ne sont que les préliminaires, ça.
Oui, ce ne sont que les préliminaires.
C'est 50 nuances de Camp de Borde, là, aujourd'hui.
Moi, avec le père de mes enfants, on était très complémentaires, tous les deux, en cuisine. Donc, il fallait... Lui, c'était le grilladin. Il faisait cuire la côte de bœuf à la cheminée ou au barbecue. Et alors, moi, je faisais les pommes de terre. Je faisais hyper bonne en patates. Je les fais dans plein de sortes différentes. Et il fallait qu'on conserve la viande en même temps que les légumes. Donc, ça suppose beaucoup de coordination. Et on rigolait pas du tout. Hein. On était vraiment à la seconde près.
Eh bien, cuisinons à deux. C'est le message d'Yves Candebord pour la Saint-Valentin. Et partageons jusqu'à midi et demi. Nous sommes avec Sophie Davant. On revient avec un plat du jour, nature et généreux comme vous, Sophie, dans un instant, fait par un grand chef spécialement pour l'occasion. Et ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée présenté ce samedi par Fabienne Lemoyle. A tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi, Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, deuxième week-end de départ en vacances et vous verrez que certains ont choisi de partir à la dernière minute. Petit boom de réservation. Cette semaine, nous serons avec eux, Gare de Lyon, à Paris. Nous serons aussi en Moselle où plusieurs élus, le maire de Metz hier, celui de Thionville ce matin, demandent une fermeture anticipée des écoles une semaine avant les vacances pour freiner la progression du variant sud-africain. Une centaine de cas par jour en moyenne, disait hier Olivier Véran. Pas de décision attendue aujourd'hui, nous a dit il y a quelques minutes la préfecture de Moselle. Les variants, c'est ce qui va dicter notre politique sanitaire. Voilà ce que disait ce matin sur Europe 1 le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique qui était l'invité de la matinale. Et nous verrons avec le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale de la PHP des hôpitaux parisiens, si la progression de ces variants se fait déjà sentir dans les services à l'hôpital. Toujours dans le journal de la mi-journée, plaidoirie express hier des avocats de Donald Trump dans le procès en destitution de l'ancien président devant le Sénat à Washington. À peine 4 jours d'audience et on pourrait connaître le verdict dès ce soir. Verdict qui pourrait être un acquittement. L'actualité sportive avec le dernier match du PSG cet après-midi avant d'affronter le Barça mardi en Ligue des Champions. Les Parisiens qui affrontent Nice à 17h. En championnat, sans l'une de ses stars, Neymar blessé. Le tennis, c'est plus aucun Français à l'Open d'Australie après le troisième tour, du jamais vu depuis 2015. Cette nuit, c'est Kristina Mladenovic qui a été la dernière éliminée. Puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Cette semaine, je vous emmène au cœur du pays minier, dans le nord de la France. Sur le tournage de Germinal, ce sera la grande saga de la rentrée prochaine sur France 2. Vous l'entendrez, beaucoup d'émotions pour l'équipe de tourner dans ces décors naturels, tellement chargés d'histoire, et pour les figurants, souvent descendants des gueules noires.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
12h02 sur Europe 1, je vous laisse en compagnie, en cuisine avec Laurent Mariotte.
Le vrai camembert, c'est AOP, au lait cru de Normandie.
C'est ce côté chlorophylle.
Et il est beau ce veau, il a fière allure, il a le béret sur la tête.
Europe 1, 11h30.
Un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre, ça c'est délicieux aussi.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus, si vous nous retrouvez, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Si vous avez manqué le début, nous avons déclaré notre flamme à notre amour du gras, au gras précisément. Le podcast vous attend sur Europe 1 et nous revoilà avec notre invitée. Elle aussi, elle aime le gras qui est généreux, qui est nourrissant. C'est Sophie Davant et qui est venue nous voir avec son magazine S, le magazine de Sophie Davant. Alors Sophie, vous posez avec votre fille Valentine, en couverture de ce magazine. C'est un dossier spécial transmission. Que transmettons-nous vraiment à nos enfants, c'est le sujet. Côté transmission en cuisine, vous le disiez, vous évoquiez vos souvenirs sur le poêle en fonte de votre grand-mère. Ça a commencé là, votre amour du goût ?
Oh oui, et puis quand on est du sud-ouest et qu'on aime sa région et son terroir, on ne peut qu'aimer la cuisine, bien sûr. Moi, je suis allée à la chasse à la palombe avec mon grand-père dans les Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques, là, sur les cols où passaient les palombes. Donc j'ai appris à les cuisiner. J'allais avec mes grands-parents ramasser des champignons le dimanche. On allait ramasser des cèpes. Donc
C'est une dingue des cèpes.
Je suis une dingue des cèpes, des girolles, de tous les champignons bien cuisinés. Et j'ai transmis ça à mes enfants. Évidemment, je leur ai appris à reconnaître les champignons, à les ramasser. Ils adorent ça. Et ce goût de la cuisine, je leur ai transmis aussi.
Alors Valentine, votre fille qui est en une du magazine S avec vous, est blogueuse culinaire. Elle est très présente sur Instagram. Elle fait des recettes. Là, je viens de la voir faire des recettes de pâtes maison quand on n'a plus de pâtes dans le frigo, par exemple. Elle se débrouille très bien. Ça vient d'où ça, c'est vous qui lui avez transmis cet amour de la cuisine et
oui,
du fait maison?
Entre autres, bien sûr. C'est moi, c'est la nounou qui s'est occupée d'eux pendant des années, qui cuisinait aussi beaucoup. Sa grand-mère paternelle aussi, qui, elle, avait des origines auvergnates et italiennes, donc qui cuisinait
aussi. Mamie
Subrona ? Alors non, Mamie Subrona, c'est ma grand-mère à moi maternelle.
Ah, parce qu'il y a une recette de Mamie Subrona dans le magazine.
Mamie Subrona, elle faisait très bien le poulet. Alors c'était le mercredi, ça. Le poulet frites, elle faisait des frites exceptionnelles.
Et
le poulet, j'ai encore l'odeur du poulet. Et sa deuxième recette, c'était du merlu au courbouillon, dans lequel cuisait aussi les pommes de terre. Alors moi, je reproduis ça en faisant avec une petite mayonnaise maison dans laquelle je mets du persil, de la ciboulette, de l'ail. Et
ben
on
c'est
se
ce qu'elle
régale.
A fait. C'est la recette qu'on retrouve dans le magazine que votre fils s'est amusé à faire. Et on la retrouve sur son blog qui s'appelle Sled et Poivre. Hein,
petit jeu de mots.
Petit jeu de mots, parce que c'est Pierre Sled, son papa. Alors c'est l'heure du plat du jour. Sophie, on vous l'apporte, vous qui êtes une femme authentique nature. On a envie de vous faire goûter la cuisine d'un de nos plus grands chefs qui est originaire du Sud-Ouest, comme vous. C'est Alain Ducasse. Et sa signature, Alain Ducasse, c'est la naturalité. Ça veut dire que c'est une cuisine qui fait la part belle aux céréales, aux légumineuses, aux poissons de pêche durable et même pas de viande, parce qu'il a voulu retirer la protéine animale, enfin en tout cas du côté de la viande, parce que le poisson est une protéine animale aussi, mais il n'y a pas de viande. Et c'est son chef Romain Médère qui a fait ce plat pour vous, qui est le chef du Plaza, avec une belle offre naturaliste qui est à disposition, à emporter actuellement. C'est un mélange de riz, de lentilles et cuisiné un petit peu à la mauricienne. Alors Yves, vous avez goûté.
Mais des épices, hein.
Ça ressemble aussi à une tradition un peu indienne, ce mélange de saveurs. Et c'est vrai que c'est très agréable. Alors moi, je vais être casse-pied. Moi, j'y remettrai, et j'adore faire ça.
Du lard.
Non, pas du lard. Juste avant de servir, prendre de la coriandre fraîche et juste rouler de la coriandre dedans.
Ah bon, on va lui demander pourquoi il a pas fait ça. Il est avec nous au téléphone. Ah. Romain Médère.
Le chef. Je suis là.
Je savais pas. Bonjour Romain Médère.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Romain.
Sophie se régale avec votre plat, je peux vous dire. Hein. Qu'est-ce qu'elle en pense,
Sophie ? Coriandre.
Alors, j'en pense que c'est très, très savoureux, très agréable. On sent du curry. Hein. On sent un peu des...
La cumin.
Ouais, du cumin, du curry.
Oui, il y a un mélange cardamome, cardamome, cumin, et voilà, c'est ce qui fait, enfin en Inde, le curry c'est un plat, hein, c'est comme nous, une section, enfin les sauciers, etc. Le curry ce n'est pas un épice à la base, le curry c'est un mélange d'épices, mais c'est un ragoût avant tout. Mais c'est juste pour faire déguster des lentilles différemment. C'est pour apporter un peu d'épices, un peu de chaleur en ces temps un peu frais. Et voilà, et moi la lentille ça me passionne parce qu'on peut faire plein de choses avec.
C'est une légumineuse effectivement qui est riche en protéines végétales. Ça permet de garder le lien aussi, cette offre naturiste. Naturaliste. Vous cuisinez pas tout nu, Romain Médère ?
Non, pas encore.
C'est l'offre naturaliste. C'est pas pareil, mais je confonds. Donc, c'est cette offre naturaliste.
On dirait Sophie d'avance, marrant.
Elle vous permet, cette offre naturaliste, de garder le contact avec la clientèle aussi et de découvrir de nouveaux clients, peut-être.
Bah, oui, c'était ça un peu le but avec Alain Ducasse. Quand on a créé cette naturalité au Plaza Athénée, on s'est toujours dit il faut qu'on descende, entre guillemets, cette naturalité dans la rue. En fait, rendre accessible au plus grand nombre et à un juste prix cette philosophie de cuisine.
Olivier.
Moi qui adore la viande, je vais vous dire un truc.
Oh là là. Déclaration d'amour.
Elle ne me manque pas particulièrement dans ce plat parce que je trouve que l'utilisation de la lentille telle qu'elle est là, très cuite en fait, donne une texture et compense l'absence de viande. Et j'ai déjà eu l'occasion de goûter à plusieurs reprises votre cuisine et c'est vrai que. Et là, ceci de génial, c'est qu'en fait, on ne ressent pas ce manque de viande.
On n'est pas frustré, Sophie.
Alors, moi, j'ai juste une question. Pourquoi la lentille aussi cuite ? Moi, j'aimerais sentir un peu plus de mâche, un peu plus de...
D'al dente.
Ouais, d'al dente.
Parce que là...
Expliquez-vous, Romain Médère.
Je suis chiante, moi.
Mais non, vous n'êtes pas chiante. Vous avez
moi j'aime bien sentir du croquant. Oui, moi aussi. J'aime pas le mou.
Mais là, il y a un côté régressif, mais allez-y. Romain.
Oui, là c'est quelque chose où en été, je serais plus sur une lentille moins cuite. Là, en hiver, je suis vraiment sur quelque chose d'un peu plus cuit pour avoir un plat un peu réconfortant.
De la rondeur.
De la tenue. Mais c'est pour ça que par-dessus, il y a une salade de riz qui doit être servie tiède, hein, légèrement acidifiée, etc.
Il y a de l'endive ou du poireau dedans dans la salade de riz?
Il y a de l'endive.
Et bon, en tout cas, merci Romain Médère, parce que c'est un plat qui réconforte et qui fait du bien, qui fait chaud au cœur en ce moment. Et bonne continuation et bon courage surtout en attendant la réouverture, Romain Médère.
Oui, on a hâte.
Et nous aussi. Merci Romain. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. On va accorder, écoutez chers auditeurs, la saison à de jolis flacons. Ça va vous parler, je pense, Sophie.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bonne vivante, entière, nature, Sophie Davant est notre invitée. Alors, on commence à vous découvrir côté fourchette depuis avant midi, Sophie. On va passer au vin maintenant, et j'ai découvert en préparant cette émission qu'avant de faire de la télévision, vous destiniez à travailler dans l'import-export du vin. C'est vrai ça?
Bah ça, je suis bordelaise, oui. Je suis née à Cestas, et Cestas, c'est dans le vignoble des Graves, hein, je ne sais pas très loin du château Carbonieux, par exemple, ouais. Pape Clément, etc. La Louvière, donc tout ça, c'est des châteaux que j'adore,
de Aubryon.
Et j'ai fait des études de langue. En fait, j'étais bonne élève, donc on m'a fait faire latin, allemand, première langue et bac C. J'étais nulle en maths, donc j'ai pas pu vraiment choisir mon avenir parce que j'avais pas un assez bon dossier. Donc j'ai fait des langues étrangères. Et là, je me disais que, habitant cette région, j'allais travailler dans ce milieu. Donc j'ai fait des stages chez Dourt, le négociant en vin. Plusieurs stages, et je me suis rendu compte que quand même, c'était plus facile pour réussir dans ce milieu quand on était fils de châtelain. Donc c'était quand même, il y a 40 ans, c'était encore très 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 fermé.
Et côté dégustation, vos appétits vont vers uniquement les vins de Bordeaux ou vous êtes ouverte aux vins de Loire
Je suis par définition ouverte parce que je suis curieuse. Mais c'est vrai que les rouges, je préfère les Bordeaux. Vraiment, là, vous m'offrez un bon Bordeaux. Je vais me régaler. J'ai plus de mal avec les Bourgognes. J'apprécie certains vins du Sud, certains vins du Pays d'Oc. Je suis moins Bourgogne, Beaujolais, tout ça, je n'aime pas. En revanche, en blanc, je préfère les blancs de Bourgogne, du Val-de-Loire. J'adore les Quincy, les Meursault, ce genre de choses.
Alors, on va essayer de vous mettre au blanc avec Olivier Pouls, parce que comme tous les mois, Olivier, je vous mets au défi d'accorder 3 produits de saison avec du vin. C'est la saison de l'orange sanguine, j'en ai encore acheté hier, tiens moi par exemple. C'est pas parce qu'elle est rouge champ, par exemple, l'orange sanguine, qu'elle va obligatoirement avec du rouge.
Non, et certainement pas d'ailleurs. Alors tout d'abord, si j'ai une seconde, je vous donne une petite recette. Moi, ce que je fais avec l'orange sanguine, c'est que je prélève les suprêmes, donc en enlevant la peau et en enlevant la petite partie blanche, je les mets dans un plat, je les saupoudre de thym et je laisse reposer tranquillement pendant quelques heures, je presse même une petite orange et c'est un mariage entre l'orange et le thym qui est absolument
petite
remarquable.
Petite salade d'orange sanguine au thym.
Exactement, ouais. Et là, bah, pour aller dans la région bordelaise qui vous est chère, je vous propose un Sauternes ou un Barsac, Barsac qui est même encore un tout petit peu plus fin, qui a un tout petit peu d'âge. Et là, vous avez un accord absolument incroyable parce que en vieillissant, ces vins de Sauternes et de Barsac vont acquérir des arômes et des odeurs d'orange, de peau d'orange, de zeste d'orange. Et là, franchement, l'accord est absolument magnifique.
Alors ça, c'est le premier produit. Il y en a 3, l'orange sanguine. Il y a le fromage à raclette aussi. Quelle saison? Vous faites des raclettes en ce moment, Sophie?
C'est pas trop mon truc.
Non, c'est pas trop votre
non,
truc.
Non, pas trop mon truc.
Mais alors moi, pour le coup, c'est mon truc parce que j'adore ça. Un bon fromage à raclette. Mais alors, il faut trouver le fromage. Ça, c'est très compliqué. Il faut un vrai fromage au lait cru, le vrai fromage authentique, oui. Les pommes de terre en robe des champs, etc. Là, pour le vin, il faut aller sur quelque chose de beaucoup plus tranchant parce que le fromage, il est gras.
Oui.
En plus, on rajoute souvent de la charcuterie. Donc, il faut venir nettoyer la bouche. Il faut que chaque gorgée de vin vous prépare à la prochaine bouchée. Donc, j'ai envie de réhabiliter aussi les vins de Savoie qui n'ont pas toujours bonne réputation.
Il y a de très bons vins en Savoie.
Il y a des choses vraiment remarquables.
Les
Chignins Bergeron, évidemment.
Les cépages. Hein.
Exactement.
On pourrait
parler de la Jacquère aussi, qui est un cépage qui peut donner des choses très intéressantes. La Petite Arvine en Suisse. Et si vous avez vraiment envie d'un rouge, pourquoi pas? Mais alors un vin très peu tannique, les Mondeuses. Franchement, il y a des Mondeuses absolument incroyable.
C'est bon ça, puis c'est un bon rapport qualité-prix en plus.
Alors, c'est pas ce qu'il y a de moins cher.
Ah bon ?
Mais oui, enfin, vous savez...
elles ont augmenté alors,
ben
vous
non,
dire.
Mais cultiver le vin à Savoie, c'est compliqué. Ah oui, c'est des terrains qui sont exigeants. Donc, on est sur des vins qui, en général, vont plutôt tourner vers 15-20 euros. C'est pas les vins de premier prix.
Alors, on va terminer avec un produit de saison. Est-ce que vous aimez le chou, Sophie Davant ? Les choux, le chou fleur, le chou vert. Non,
alors
pas trop.
Là,
vous avez le droit de dire non.
Vraiment, ce que j'aime pas, je suis désolée, mais alors.
Le truc que j'aime pas, c'est le chou.
Je déteste le chou de Bruxelles. Alors, j'ai des souvenirs enfants de cantine. On m'obligeait à bouffer.
Arrêtez de rester sur vos souvenirs
mais
de cantine.
Je suis désolée, mais
une bonne garbure.
Fait partie.
Une garbure.
Ouais, alors, une bonne garbure avec du confit, ça c'est bon.
Ah voilà, que pas de chou aussi.
Ou un bon chou farci, par exemple.
Ah, ça c'est bon aussi.
Ah ben voilà.
L'accord, évidemment, avec ces légumes verts, on le dit souvent, c'est assez difficile parce que ce côté végétal renforce le côté végétal des vins. Là, je vous fais déguster un Sancerre. C'est probablement un des vins qui se marie assez bien finalement avec, si on avait un beau chou farci là, ce serait Yves, vous auriez pu l'apporter. Hein. Ça aurait été parfait.
Il est fermé.
Je vous en promets, dans pas 15 jours. Allez, je prends le pari.
Vendu.
Voilà, le cépage Sauvignon se marie assez bien avec ce chou. Et puis, si le chou est croûte, direction l'Alsace et un beau Riesling avec une choucroute, ça reste quand même un des incontournables de l'hiver. Il n'y a pas un hiver qui peut se passer sans qu'on se soit fait deux, trois fois
une
belle choucroute avec un Riesling.
Bon.
Et il est incroyable votre Sancerre au nez, il y a un côté... j'allais dire pétroleux presque,
c'est pierre à feu presque.
Exactement.
Voilà. Et d'ailleurs, il porte bien son nom, terroir de silex. Ouais. Et ce sont des terroirs, quand on va les voir, évidemment, qui sont pleins de silex, n'ont pas inventé. Et dans ce vin, on a le côté, vous savez, quand vous prenez des silex les entrechoquez pour faire. On a tous essayé à un moment, comme les hommes préhistoriques, d'allumer des feux comme ça. Mais vous savez, il prend une petite odeur. Eh bien, cette odeur, je trouve qu'on la retrouve tout à fait dans ce vin.
Eh bien, ne bougez pas, chers amis, on revient dans un instant avec notre invitée Sophie Davant et notre questionnaire. Sophie Davant, vous ne craignez pas la chaleur ?
Non.
Non, on va vous passer sur le grill dans un instant. Le grill des bons vivants, ce sera juste après ça. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie avec notre invitée Sophie Davant, Yves Candebord est toujours présent autour de la table, Olivier Pousse également. Et Sophie est venue nous voir avec S, le magazine de Sophie Davant. C'est le deuxième numéro consacré à la transmission. Il marche très bien en plus votre magazine, dites donc, félicitations.
Le premier a très bien marché, le second on attend d'avoir les résultats. Et là je suis déjà en train de préparer le troisième. C'est du boulot.
Ah, c'est du taf comme on dit. Ouais. Et en préparant l'émission, j'ai remarqué votre aversion pour tout ce qui est mou dans l'assiette.
C'est vrai.
C'est vrai, vous n'avez pas les quenelles.
D'abord, j'aime bien les mélanges de mou et de croquant, de sucré et de salé. J'aime bien une cuisine qui amusante, quoi, un peu rigolote. Mais alors, bon, tout ce qui est mou, je ne suis pas très souple. Alors, je ne suis pas très souple, je suis désolée, pourtant, il y en a d'excellentes. Mais je n'ai pas vraiment d'appétence pour ça, tout ce qui est yaourt, purée, compote. Alors là, ne me servez pas de compote, pitié. Les quenelles,
Moi, je comprends complètement ça. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une tendance à tout ce qui est mou. Alors nous, on rigole quand on dit ça, c'est la nourriture pour bébé avec une paille. Mais c'est vrai que la mâche, mais sans qu'elle soit excessive, vous parlez des quenelles, mais si la quenelle est gratuite, si elle est croustillante sur le dessus et moelleuse derrière, ça pose pas de problème. Mais c'est vraiment les ingrédients où tout est mou. Et quelque part, moi ça m'endort, ça m'assouplit.
Le problème, c'est que si on continue à manger que mou, dans 15 générations, on n'a plus de dents.
Bien sûr, mais vraiment, et là, dans une génération burger, où c'est la culture du mou aussi. Alors, vous allez souvent en Normandie, Sophie Davant, pour faire une pause. Vous profitez des plaisirs de la Normandie, entre les volailles, les fruits de mer, les poissons. J'imagine que vous faites un joli marché.
Ah oui, là j'en profite. En plus, je prends le temps de le faire, ce que je ne fais pas forcément en semaine. Et je prends le temps de cuisiner.
Et c'est quoi le menu du week-end de Sophie d'avant, quand elle est en Normandie, par exemple?
Alors, c'est beaucoup de poissons que j'aime manger en carpaccio, par exemple, le carpaccio de saumon, de bar, de Saint-Jacques. Je n'aime pas les Saint-Jacques cuites, par exemple. Moi, je les préfère crues en carpaccio. Donc là, je me régale dans les assaisonnements. Du poisson en courbouillon, donc la recette de ma grand-mère, mais aussi des volailles. J'ai la chance d'avoir une très belle cuisinière qu'on trouve beaucoup en Angleterre, une aga, vous savez.
Ah oui, voilà. C'est magnifique.
Donc
ils sont sublimes.
Avec plein de fours différents à différentes températures, donc je m'éclate pour faire la cuisine.
Et vous aimiez aussi beaucoup le magret de canard, m'a-t-on dit à une époque, c'est toujours le cas ?
Ça, c'est mon péché mignon. C'est toujours le cas. J'ai été quand même élevée à la graisse d'oie et de canard.
Puis le magret de canard, ça, on n'en mange pas tellement sur Paris. Mais c'est vrai que c'est un produit d'exception.
C'est délicieux. Voilà.
Ça comporte tout. Il y a justement la mâche qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a ce goût. Il y a aussi une finesse une finesse en bouche qui est remarquable.
Il est dévoyé, malheureusement, par des magrets de canard de mauvaise qualité. C'est toujours pareil.
Parce que là, il faut le dire, on vend des filets de canard, mais qui ne sont pas du tout issus des
c'est
canards.
C'est du canard maigre, le filet.
Voilà, et ça n'a rien à voir.
Et puis le magret de canard, Sophie, le faire en carpaccio, enlever complètement la graisse, le laisser très finement en carpaccio, un trait d'huile d'olive, parmesan, sel et poivre.
C'est vrai que c'est surprenant.
Alors, je vous fais une confidence. Moi, j'adore le gras du magret de canard. Donc, je le fais réduire au max sur le côté peau. Mais j'adore ça, ce côté
bien
croustillant. Là, c'est super bon.
Voilà. C'est de la gourmandise. Vous êtes d'accord avec notre amour du gras qu'on clame depuis 11 heures. Vous avez grandi dans le sud-ouest, donc vous venez de nous le rappeler, Sophie. Dans votre magazine, vous consacrez un dossier au Pays Basque à la fin, parce qu'il y a un côté évasion. Et là, on est à Biarritz. Et vous nous faites faire des petites balades. Et il y en a une qui va juste jusqu'au port des pêcheurs, qui est une très belle adresse.
C'est magnifique, surtout pour manger des petits calamars, des petits soupiaux, les petites brochettes de calamars avec leur petite vinaigrette, ça s'appelle le chipister.
C'est
un espèce de mélange d'huile d'olive, un peu de vinaigre, de l'ail, des herbes.
Qu'on met sur le merlu à l'espagnol aussi.
Avec des chips d'ail. Moi, c'est comme ça que je fais l'ail. À chaque fois que je prépare des plats à l'ail, j'enlève le germe et je fais des petites chips d'ail que je fais cuire dans l'huile, et c'est plus digeste et ça apporte du croquant.
Ça amène le parfum, et c'est vrai que c'est un accompagnement idéal de tous les poissons de la mer.
On est dans le sud-ouest, on a envie de sortir la plancha. Mais en attendant, c'est l'heure de sortir le grill. On va vous passer sur le grill des bons vivants, chère Sophie. Alors, première question, quel est le goût de votre enfance?
Eh bien, c'est le goût du salmi de Palombe, c'est le goût des croquettes avec les restes de pot-au-feu de ma grand-mère, c'est le goût du poulet du dimanche, c'est le goût des bonnes frites maison. J'ai une passion pour les frites.
Bienvenue
J'adore
au club.
J'adore les frites. Alors pour moi, on reconnaît un bon restaurant à l'œuf mayo et à la qualité de la frite.
Mais est-ce qu'on parle bien de frites à la graisse de bœuf?
Chez moi, on les fait à la graisse d'oie, par exemple, ou à l'huile toute simple, mais une huile neuve, quoi. Voilà.
Pas de vidange. Votre plus beau repas?
Ça, c'est des repas déjà avec un amoureux, forcément, quand la chair se mène à l'autre chair et à l'amour, ça, c'est formidable. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des amoureux généreux qui m'ont invité dans des très beaux restaurants étoilés, par exemple chez Yves. Et bon, c'est toujours des moments privilégiés.
Votre pire repas, Sophie, d'avant?
Mon pire repas, justement, si on me sert une quenelle molle avec en entrée une soupe et en dessert une compote, alors là, je meurs.
Et au lit, au revoir. Votre plus grand raté en cuisine, c'est quoi?
Alors, mon plus grand raté, c'est que j'adore Christian Constant aussi, un copain de Dives,
un grand monsieur
du Sud-Ouest aussi. Et alors, j'adorais son... Moi, je suis pas très dessert, je suis plus salée que sucrée, donc je suis nulle en pâtisserie. Puis alors, suivre une recette, ça me rase totalement.
C'est de la précision, la pâtisserie.
Ça m'intéresse pas du tout. Moi, il faut que je crée, que je cuisine d'instinct, comme ça, que je reproduise des goûts. Et alors là, j'avais voulu me lancer dans son fameux millefeuille avec de la crème chantilly, et il sert un caramel chaud dessus, c'est à tomber par terre. Sauf que j'avais vu ma grand-mère travailler la pâte feuilletée, je l'avais vu mettre du riz par-dessus pour éviter qu'elle ne gonfle. Donc moi, j'ai mis du riz sur ma pâte feuilletée, j'ai mis au four et j'ai juste oublié le papier de cuisson. Donc c'était de la pâte feuilletée au riz. Voilà, donc ça a fait la joie de mes enfants qui ne sont jamais remis.
Votre bande originale pour cuisiner?
Écoutez, j'essaie de mettre des gens que j'aime. Alors, parmi les gens que j'aime, il y a Cabrel, vous me l'avez mis tout à l'heure, il y a Souchon, il y a Julien Clerc, il y a de la belle musique classique, il y a Eric Clapton avec son Unplugged, il y a Dire Straits, voilà.
Le fameux riff de guitare. Magnifique, on y est là.
C'est
votre adresse secrète, Sophie, d'avant?
Alors, je viens de déménager. Figurez-vous que ma nouvelle adresse s'est installée en face de chez moi une jeune femme. Hélas, elle a dû fermer très vite, en raison de la crise sanitaire, mais qui était une élève d'un resto basque du 7e arrondissement qui a appris à cuisiner chez lui.
Chez l'ami Jean, chez Stéphane Jégot.
Exactement. Donc, c'est une jeune femme qui est formidable et alors qui fait notamment une côte de bœuf avec des patates. Alors là, c'est tout ce que j'aime.
Ah bon, on y est. Ben nous aussi, on prend.
Le nom du restaurant, le nom du restaurant.
Ça s'appelle le Petit Georges.
Ah. Ah ben on prend. Merci pour cette adresse, Sophie. Et tiens, pour terminer, le mot de la fin, F-A-I-M.
À table.
Et ben voilà, c'est ce qu'on fait. Et on était ravis de vous recevoir à cette table.
Merci
justement.
À vous.
Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et je rappelle, eh bien, affaire conclue hein, tous les jours du lundi au vendredi à 16h sur France 2. Et puis S, le magazine de Sophie Davant. Je vous le passe, tiens, Olivier, parce qu'il y a un truc qui peut vous intéresser. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourot à la rédaction en chef. Julien Amat, Alice Foss, Marion Sauveur. Merci Agnès Vaudin à la programmation. Jean-Luc Arblade à la réalisation. Merci Camara Vif Candebord.
Merci Laurent.
Salut Olivier Pousse.
Merci.
Bonne
semaine. Merci Sophie. D'ici là, faites le marché, la cuisine et le reste, bien entendu.
Bien sûr. Oui.
C'est la Saint-Valentin demain, n'oubliez pas.
Hein.
Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoile. On sera là samedi avec Nicoletta. Bon week-end sur Europe 1.
Merci à vous.